Dialogue entre comptes de la prison avec qui écoutait la présentation. Bonsoir, un seul thème dans les débats de ce soir, à savoir province de l'Équateur. Les FRDC ont repris depuis hier dimanche soir le contrôle de la localité de Dongo. Vous vous souviendrez que cette localité a été victime des violences perpétrées par des insurgés qui ont provoqué ainsi la mort d'une centaine de personnes. Quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui à Dongo? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour assister les déplacés? Ce sont là les deux questions principales au centre de notre débat de ce soir. Pour répondre à vos préoccupations, trois invités sont avec moi dans ce débat. Maître Dismas Mangdengou, conseiller principal du gouverneur de la province de l'Équateur. Il est en ligne. Bonsoir, Maître Dismas.
Bonsoir, madame.
Professeur Jacques Ndoli, sénateur MLC, professeur de droit, il est avec moi dans ce studio. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Et Arsène Mouaka, coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université Kinshasa, il est aussi en ligne. Bonsoir, monsieur Mouaka.
Bonsoir, madame.
Les auditeurs sont nombreux à réagir. C'est le cas de William de Bignon. Si vous, la reprise de Dongo ne signifie pas le plein succès de l'opération, aussi longtemps que les FRDC n'auront pas encore suivi, localisé, mais surtout décrit la position des insurgés Kakuli Sefu, Gustave de Kalemie au Katanga, nous demandons aux FRDC de bien conserver les zones récupérées des mains des insurgés afin de restaurer l'autorité de l'État, car la population en a marre des atrocités dont elle est toujours victime. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les forces gouvernementales sont entrées à Dongo depuis hier dimanche soir. Selon plusieurs sources concordantes, Dongo est tombé sans un seul coup de feu. Le point avec Emmanuel Imbanda.
L'information circulait déjà hier soir à Kinshasa dans les milieux de la société civile. Elle est confirmée ce matin par plusieurs sources concordantes. Selon la société civile, les forces armées congolaises sont entrées dans Dongo sans coup férir. Les sources militaires onusiennes confirment l'entrée à Dongo hier à 17h. Il s'agit des éléments du 320e bataillon spécial d'intervention rapide venu de Kindu Maniema. Toujours selon les sources militaires onusiennes, ils sont entrés sans combat. Ces sources parlent d'un contingent de la MONUC en reconnaissance sur l'axe Bozeme-Bobito-Dongo depuis ce matin. Le commissaire du district du Sud-Ubangi confirme la présence des forces gouvernementales à Dongo. Selon Jean-Baptiste Lumbwe, ses troupes avancent vers la localité d'Inessé. Depuis hier soir, les forces régulières contrôlent l'axe Gemena-Dongo long d'une centaine de kilomètres. Ceci après 5 jours d'avancée progressive, selon une source militaire ayant requis l'anonymat. Les derniers combats datent de mardi dernier. Les sources militaires onusiennes signalent aussi l'apport de l'appui logistique de la MONUC dans cette avancée des forces régulières congolaises.
Merci Emmanuel Imbanda. Maître Dismas Mangbengou, vous êtes conseiller principal du gouverneur de la province de l'Équateur. La localité de Dongo à nouveau sous contrôle des FRDC depuis hier dimanche soir. Quelle est la situation aujourd'hui dans le sud du Bangui et plus précisément à Dongo?
Madame, merci. La situation sécuritaire est extrêmement calme aujourd'hui à Dongo, comme nous l'avons dit à plus de 2 semaines, personne n'a pu nous croire, et voilà, comme il est écrit, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté au grand jour, Dongo est sous contrôle des éléments de la police et des FRDC, et la situation sécuritaire à Dongo, pendant que je vous parle, madame, est extrêmement calme.
Maître Dismas, est-ce que cela veut dire que vous avez démantelé ce mouvement?
Bon, c'est-à-dire, madame, il n'y a pas eu de mouvement à proprement parler. Mais vous savez, dans ce pays, lorsqu'on a faim le matin et qu'on ne trouve pas comment, ou on ne voit pas par quelle procédure on peut devenir d'ici demain ministre, on invente tout, on profite par n'importe quelle occasion, n'est-ce pas, pour faire du chantage à l'autorité établie ou pour faire peur à la population et ainsi de suite se faire un peu une certaine, se créer une importance pour que l'on arrive à s'intéresser à soi. Donc voilà un peu. Donc il n'y a pas eu un mouvement à proprement parler parce que vous savez.
Mais c'était quoi alors? Si c'était pas un mouvement, c'était quoi?
Suivez, madame. L'histoire, vous savez que ça a commencé entre les États poissonniers. Mais les pêcheurs en eau trouble ont voulu en profiter. N'est-ce pas? Certaines personnalités, certaines personnes mal intentionnées ont voulu prendre, ont voulu saisir cette occasion, n'est-ce pas, pour se créer de l'importance tant au niveau régional, national qu'international.
Mais est-ce que vous avez démontré ces personnes mal intentionnées?
Madame, il y a eu plusieurs rapports qui ont été dressés, n'est-ce pas, par les services et même la dernière descente des parlementaires, c'est-à-dire des députés nationaux, des députés provinciaux. Il y a eu des rapports qui ont été établis à l'autorité. Plusieurs personnes sont citées. Et même aujourd'hui, parmi les personnes qu'on a dit détenues, qu'on a dit arrêtées, hein, parmi les assaillants, plusieurs noms des autorités sont cités.
Voilà,
plusieurs personnalités sont citées.
Oui, maître, dites-moi, si on ne revient pas sur l'origine, on parle de la situation sécuritaire actuelle là-bas. Mais où est-ce que vous situez aujourd'hui ces assaillants-là?
Les assaillants ont tout perdu. Ils ont perdu l'État. Ils ne savent pas par où passer. Ils sont entrés certainement de se cacher dans les marécages, à travers la forêt. Parti par là, parce que pas plus tard qu'hier, vers la localité de Lobengo, n'est-ce pas, on a aperçu certains d'entre eux en foot, et curieusement, la population s'en est occupée de cette bande de 13 personnes qui sont en ce moment-ci incarcérées.
Merci, maître Dismas. Professeur Jacques Ndoli, vous êtes sénateur MLC, élu de l'Équateur. Comment vous réagissez à cette reprise de Dongo par les FRDC?
Ben, écoutez, madame, c'est qu'on peut se féliciter, n'est-ce pas, de la reprise du contrôle de l'ensemble du territoire par les forces régulières. Nous espérons que la situation va se consolider et que surtout toutes les mesures vont être prises pour éviter des dérapages et surtout accorder, n'est-ce pas, une aide et une assistance humanitaire de manière à ce que ceux qui sont à Dongo et aux environs puissent être tranquillisés et que ceux qui sont dans le camp des réfugiés, notamment à Ifondo, à Bitu et ailleurs, puissent rentrer afin de, n'est-ce pas, c'est occupés de leur vie quotidienne. Vous savez, dans cette zone, les enfants n'étudient plus. La situation humanitaire, depuis pratiquement un mois, est catastrophique. Lors des premiers affrontements sur Dongo, les corps sont restés à l'état de décomposition, donc il faut craindre, n'est-ce pas, des épidémies. Voilà un peu ma préoccupation. Restauration de l'autorité de l'État, approche globale pour prendre en compte la situation humanitaire et surtout aborder la question fondamentale de la pauvreté, de la faim, qui va, n'est-ce pas, éviter, comme dit Maître Dismas, que tout le monde puisse organiser n'importe quel mouvement et que ça démontre, n'est-ce pas, d'un déficit de gouvernance globale sur fond d'une pauvreté extrême. Voilà un peu les pistes sur lesquelles il faudra s'orienter au-delà du fait de la récupération de la ville de Lomo.
Oui, professeur, vous venez de dire qu'il y a des mesures qu'il faut prendre en compte pour éviter tout dérapage. Quelles peuvent être ces mesures?
D'abord, dans toute opération militaire, il faudra prendre en compte la protection des civils pour éviter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Vous avez vu dans le communiqué de l'AFP, il a été notamment dit qu'il y a un professeur et un père de famille et son fils commerçant qui ont été tués à Bobito. Et d'autres communiqués parlent de tombes plus ou moins récentes, n'est-ce pas, dans cette province. Donc les dangers dans une guerre non conventionnelle telle que celle-là, où pratiquement l'ennemi est plus ou moins invisible, on nous a dit que Dongo a été pris
dans
un coup de feu, c'est finalement que la population soit confondue avec ce qu'on appelle les malfrats ou les bandits, et que ça puisse, n'est-ce pas, dégénérer en règlement de compte pour atteindre parfois des personnes qui n'ont rien à voir avec le mouvement.
Merci, professeur. Monsieur Arsène Mwaka, vous êtes coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il y a quelques jours, la situation dans le sud d'Ubangi était confuse. Aujourd'hui, les FRDC ont le contrôle des Dongo et ont récupéré cette localité, il faut le préciser, sans un seul coup de feu. Comment vous analysez cette nouvelle situation?
Oui, je crois que la première des choses, c'est de pouvoir féliciter notre armée, les FRDC. Je crois que c'est la première fois qu'une aventure est arrêtée net et que on est quand même content de voir que le symbole d'une armée peut disperser des aventuriers qui veulent profiter d'un affaiblissement à la fois psychologique et réel de l'État. Et donc, on ne peut que féliciter notre gouvernement et les FARDC. La deuxième chose, c'est de dire aussi que quand le gouvernement et la MONU, qu'il faut avouer que les deux se partagent la sécurisation du territoire national, quand les deux veulent la même chose, on a suivi la déclaration du règlement spécial du secrétaire général des Nations Unies qui a dit clairement qu'il fallait arrêter cette aventure. On a constaté que ça marchait. De trois, je crois que le défi qui reste, c'est l'ordre public, c'est l'impartialité que ces éléments doivent observer dans ces conflits, c'est l'affirmation de l'autorité de l'État dont on venait de faire allusion tout à l'heure, et la collaboration avec la population locale. Et je crois que c'est le plus dur, parce que le plus souvent, notre armée s'est aussi illustrée comme une source importante de sécurité, et je crois que cette fois-là, de telles choses pourraient être évitées avec cette brigade bataillon spéciale qui a quand même fait du bon travail.
Merci, Monsieur Arsène Mwaka. Maître Dismas, vous avez suivi le prof Njoli et Monsieur Arsène Mwaka. Pour le prof Njoli, c'est bien, on a récupéré Dongo, mais il y a des aspects dont il faut tenir compte, entre autres la protection des civils. Est-ce qu'il y a des actions que vous menez dans ce sens?
Oui, madame, tout a été prévu. D'ailleurs, ce mercredi, le gouverneur de province élu va personnellement effectuer une descente à Gemena pour aller jusqu'à Dongo en vue d'évaluer la situation sécuritaire sur le terrain. Parce que vous savez, madame, par rapport à ceux qui se mettent loin du terrain et qui créent des théories parfois discordantes avec les réalités du terrain, le gouvernement provincial de Pasteur a toujours procédé par l'observation directe. C'est pourquoi, ce mercredi, le gouverneur de province va descendre pour se rendre compte effectivement de ce qu'il y a, évaluer la situation humanitaire, voir les maisons, est-ce qu'il y a des maisons brûlées, est-ce qu'il y a des enfants, il y a des sans-abri. C'est au regard de cet inventaire, n'est-ce pas, que des mesures concrètes seront prises pour prendre en charge la sécurisation de la population.
Maître Dismas, il y a Machini de Manono Katanga qui dit la reprise de Dongo est une bonne nouvelle, mais cela ne suffit pas. Il faut mettre fin définitivement à cette situation.
Oui, madame, mon frère qui parle de Manono, j'espère qu'il a bien suivi, que la situation à Dongo est calme, que les FRDC et la police nationale ont mainmise sur Dongo, et je crois que pour conclure, il n'y aura plus de pareilles aventures à Dongo.
Et qui occupe Dongo en ce moment?
La population elle-même n'est pas du tout d'accord avec ce genre d'aventure.
Maître Dismas, qui occupe Dongo en ce moment?
En ce moment, vous savez, l'opération à Dongo a d'abord concerné la force de la police, qui sont entrés les premiers sur Dongo et appuyés par les éléments des FRDC. Donc, vous avez suivi qu'on parle du 320e bataillon FRDC. Hein, et cela valait la peine, d'autant plus que les fumeurs de change, les drogués utilisaient des armes. Donc, il a fallu répondre par des mesures équivalentes pour arriver à rétablir rapidement la situation sur le terrain.
Il y a une autre question qui nous vient de Badolité, c'est Félicien qui demande si les services de renseignement ont identifié ces rebelles, car il y a beaucoup de spéculations là-dessus dans la province.
Oui, madame, vous savez, les gens veulent spéculer là où on ne peut pas spéculer.
Mais c'est pas la vraie information.
Parmi les assaillants, bon nombre sont aujourd'hui entre les mains des forces loyalistes, entre les mains des forces de la police et des FARDC. Et les services de renseignement, tant de l'armée que des services civils, sont en train de s'activer à recevoir les éléments, les informations nécessaires pour comprendre un peu aujourd'hui qu'est-ce qui est arrivé à Dongo. Donc voilà un peu ça, madame.
Voilà, merci maître Dismas, professeur Jacques Joly. Félix Armand, ici en province orientale, dit ceci. Aujourd'hui, qu'on semble virtuellement résoudre la question de Dongo, je veux savoir quelle stratégie faut-il monter afin de résoudre durablement la question de l'insécurité interne des territoires, car l'État perd de plus en plus sa confiance auprès de la population. Comment vous répondez à la préoccupation de Félix?
Oui, je crois que cet auditeur analyse plus ou moins correctement la thématique lorsqu'il dit du contrôle virtuel et il demande, n'est-ce pas, qu'on puisse avoir une approche à la fois rétrospective et prospective. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la problématique de Dongo, comme les précédents intervenants viennent de dire, il faut qu'on puisse comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la plupart des conflits qui, n'est-ce pas, assaillent nos États, ce sont des conflits de déficit de gouvernance. Vous savez, le problème de Dongo, les conflits des temps entre deux clans, datent de 2007. Et depuis 2007, d'abord, l'autorité locale a péché par une approche beaucoup très hasardeuse dans la désignation des chefs de secteur sans comprendre, n'est-ce pas, les antipathies et les sympathies locales. Deuxièmement, il faut comprendre aussi que le pouvoir provincial, pendant plus ou moins 9 mois, était, géré de manière erratique. Un gouverneur venait d'être, dégommé par l'Assemblée provinciale. Il y a une autre qui assumait l'intérim sur fond des conflits entre l'Assemblée provinciale et la province et le gouvernement provincial. Et au sein du gouvernement provincial, il y avait beaucoup, de conflits à l'intérieur. Ce qui fait que pendant 9 mois, les questions de développement, les questions de contrôle du territoire à la province de l'Équateur ont été un peu abandonnées. Voilà pourquoi ces conflits d'étang se prolonger. Et au niveau national, à plusieurs reprises, les députés nationaux ont d'abord interpellé le ministre de l'Intérieur, qui a plus ou moins renvoyé la question sans examiner le fond, et les députés pro-nationaux sont allés voir les premiers ministres et lui ont proposé, leur apport pour, résoudre cette question. Donc ces déficits au niveau local, au niveau provincial et au niveau national vont faire que finalement, ce qui était simplement un conflit d'État va devenir un conflit militaire avec des morts d'hommes, des centaines, des milliers de déplacés. On parle de plus ou moins 73 ou 74 personnes, 1000 personnes, qui sont au Congo. Et voilà la question. Donc, pour qu'on ne puisse plus tomber à cela, il est important qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État. Restaurer l'autorité de l'État, ça veut dire quoi? Ce n'est pas dire qu'il faut envoyer des troupes militaires. Il faut répondre aux préoccupations, comme a dit l'auditeur, à la présence protectrice de l'État qui doit répondre aux besoins de la population en termes de santé, en termes d'éducation et en termes de développement. Vous voyez que des gens peuvent se tuer en plein 21e siècle pour un étang, alors qu'aujourd'hui, on peut faire des étangs naturels, artificiels, pour, faire de l'aquaculture. Il faut des routes, on est dans les marécages. Quand je vois la progression des militaires dans cette province, dans cette zone, pour quitter Guémena et Dongo, moins de 200 km, on a fait 5 jours. Oui, donc il y a des problèmes, d'évacuation, d'enclavement. Dongo, c'était un grand centre commercial lorsqu'il y avait une forte navigation entre Mbandaka et Bangui. On parle de Dongo, on parle de Batanga. C'était des grands ports. Or, aujourd'hui, il y a une désaffection totale, n'est-ce pas, de cette province en termes de vitalité économique, ce qui fait que la jeunesse désœuvrée, qui a, en plus se trouve avec les conadères qui ne sont pas pris en charge, eh bien, cette jeunesse est prête, n'est-ce pas, à se jeter dans des mouvements de notre âge pour se livrer à des opérations de type militaire, sans perspective politique, et qui, n'est-ce pas, vont créer, n'est-ce pas, ces mouvements de conséquences sur l'ensemble de la population et des innocents. Voilà un peu la problématique telle que je puisse ramasser de manière globale. Donc il faut avoir une réponse militaire immédiate, mais il faut avoir une vision globale pour savoir d'où ça vient, comment y répondre dans le cadre, n'est-ce pas, d'une gouvernance prospective.
Et par rapport à la préoccupation de notre auditeur, pour vous, la stratégie qu'il faut mettre en place, c'est restaurer l'autorité de l'État.
Restaurer l'autorité de l'État, répondre aux préoccupations des habitants, gérer les habitants, cesser de détourner l'argent destiné aux entités décentralisées pour permettre, par exemple, au territoire de Kungu, n'est-ce pas, de faire vivre ce secteur, les Lobala, les Niébé. Mais lorsque le fonds de l'État sont détournés à plusieurs niveaux et la population abandonnée à des autorités véreuses, eh bien, on arrive, n'est-ce pas, à des cas tels que des Dongo, et qui deviennent des problèmes militaires, alors qu'ils sont des problèmes socio-économiques, des problèmes de développement global.
Merci, professeur Jacques Ngoli, monsieur Arsène Mouaka, pour mettre fin à ce genre de situation. Il faut restaurer l'autorité de l'État, c'est le point de vue du professeur Jacques Ngoli. Je vous pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à restaurer l'autorité de l'État.
Oui, bien avant, moi je crois que il faut souligner d'abord que le vouloir vivre collectif n'est pas une donnée naturelle. Les hommes ne sont pas faits pour vivre ensemble. Le vouloir vivre collectif doit être construit et on doit pouvoir avoir une politique nationale pour ce genre de problèmes. Je crois que ce qui se passe à Dongo n'est que symptomatique de ce qui se passe partout ailleurs. Il y a des tout petits conflits qu'on néglige souvent au profit des grands slogans, de très grands concepts, et on oublie de gérer le quotidien des populations. Je crois qu'aujourd'hui, ce tout petit village nous démontre qu'il y a réellement des problèmes qu'il faut gérer. Alors, est-ce que ça passe par restaurer l'autorité de l'État? Oui, je crois. Je crois que l'État reste une machine incontournable qui doit pouvoir nous aider à vivre ensemble. Et c'est cet État-là qui doit nous conduire vers la construction de ce que nous voulons comme une unité nationale, et ainsi de suite. Mais bon, comment construire cet État? Je crois que ceux qui dirigent doivent nous répondre, parce que on nous parle d'un programme de l'action du gouvernement, et ce programme nous semble être assez affairiste. On se préoccupe beaucoup plus de la production des richesses avant même de réparer la machine qui doit pouvoir produire ces richesses. On nous dit que c'est urgent que nous puissions faire du Congo un espace où on doit faire les affaires, mais avant même de réfléchir sur cette machine productrice de ces conditions de vie et de richesse. Et donc, je crois qu'il faut refaire l'État. Et ça devrait, pour ceux qui parlent des chantiers, être l'unique chantier de ce gouvernement. Comment refaire l'autorité de l'État quand les policiers sont impayés? C'est-à-dire, les policiers doivent être respectés, bien habillés, ils ne doivent pas être en babouche, ils ne doivent pas être à des habits qui sont décolorés depuis des années. Ils doivent être bien payés, ils doivent être bien logés, ils doivent, ainsi de suite, la justice. On doit continuer les efforts qui sont déjà amorcés. Ça doit être un processus et ça doit être voulu. Les fonctionnaires qui sont en grève, d'ailleurs, pour une part, ils doivent être attendus. Il y a successivement de très beaux résultats. Il y a uniquement l'État qui mérite d'être pris pour espérer restaurer ce qu'on appelle l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ce n'est pas un fusil, ce n'est pas un char, ce n'est pas une armée qui gagne rapidement, mais je crois qu'une armée peut gagner rapidement et tant qu'on n'a pas arrangé toute la structure, ça ne marchera pas. Et donc, pour moi, je crois qu'il y a de très de mesures qu'il faut prendre à chaque niveau de tout ce qui est symbole de l'État pour pouvoir restaurer cette autorité. Ça passe par des bâtiments, ça passe par les habitations de ceux qui gèrent, ça passe par leur habillement, ça passe successivement des petites choses. et non s'affubler autour, dans des grands termes qui ne signifient du tout rien.
Merci, Monsieur Arsène Mouakach. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour assister les déplacés? C'est la deuxième partie de notre émission, mais avant de poursuivre, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
La situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans le sud de Bangui. Les déplacés fuyant les dernières atrocités des Dongo n'ont aucune assistance de la part des autorités locales. La société civile du sud de Bangui, qui tire cette sonnette d'alarme, demande au gouvernement d'ouvrir un couloir pour faciliter le déploiement des humanitaires pour assister les déplacés. On écoute Théophile Lobangui, vice-président de la société civile du sud de Bangui, au téléphone de Samuel Kachak.
Jusque-là, les déplacés ne sont pas assistés, mais nous avons demandé et nous continuons à demander au gouvernement et à la ministre d'offrir un couloir humanitaire pour faciliter le déploiement des humanitaires pour assister les déplacés qui sont dans une condition de vie très précaire. Et c'est inquiétant parce que ça risque de créer des problèmes humanitaires. Je crois que les gens seront prêts à rentrer. S'ils sont rassurés pour leur sécurité, qu'ils ne seront pas inquiétés, qu'ils ne seront pas menacés, qui n'y aura pas chasse à l'homme. Et je crois que c'est le souhait de tout le monde. Nous n'avons pas besoin de guerre, nous avons besoin de paix pour reconstruire notre milieu.
Maître Dismas, vous avez suivi le président de la société civile du sud de Bangui. Aucune aide humanitaire n'est apportée aux déplacés. Pourquoi?
Oui, madame, avant de répondre à la préoccupation de cet auditeur,
Le président de la société civile.
Oui, j'ai voulu faire marche en arrière, madame. Oui, merci. J'ai voulu faire marche en arrière.
Oui, ça est bref, hein.
Le professeur Jacques Ndoli affirme que pendant 9 mois, la gestion n'a pas été bonne et que les fonds alloués aux ETD sont détournés et plus loin. Il va pour dire qu'il faut absolument respecter l'autorité de l'État. Et plus grave, il parle même que ce conflit est parti de 2007. Donc, j'ai compris par là, madame, que mon distingué contradicteur n'a pas la réalité du terrain. Le conflit entre les Muzaya, Muzaya et Nyéré date de 1946. Qu'il puisse noter aujourd'hui, puisque je n'y reviendrai plus jamais. Ça, c'est un. Et deux, que aujourd'hui, devant les canons, les coups de canon crépitent, devant la peur, vous voulez qu'on puisse organiser l'assistance humanitaire. Je l'ai dit en amont, qu'il faut avant tout effectuer des missions pour s'assurer de la situation réelle sur le terrain, inventorier les besoins réels, et ensuite savoir comment répondre. Et plus, d'autre part, Jacques Ndoli, mon frère et ami Jacques Ndoli, est sénateur. Donc, il fait partie du Parlement. Je crois que la situation de notre pays, le développement, la restauration de l'autorité de l'État, les moyens qui sont mis en charge pour résoudre ce problème, viennent du Parlement. Lui, en tant que sénateur, quels sont les efforts fournis par lui afin que la sécurité telle que décrite par lui puisse être rassurée? Quelles sont les mesures au niveau du Sénat? Quels sont les moyens, depuis que ce conflit a commencé, quel a été l'apport décisif du Parlement, précisément la chambre là où mon frère Ndoli siège, pour ramener la paix? Donc, et alors que nous savons, et vous devez le savoir aujourd'hui, que les tireurs de ficelles sont ceux-là même qui sont à Kinshasa, le constructeur de la théorie de l'équation zurichienne, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain.
Vous faites allusion à qui quand vous dites que le tir, quand vous dites que les tireurs de ficelles sont à Kinshasa?
Oui, madame, je sais de quoi je parle.
Mais aidez-nous à comprendre.
Les tireurs de ficelles sont à Kinshasa, on les compte parmi les députés nationaux, parmi les sénateurs, parmi les politiciens, et ils sont à Kinshasa. Je sais de quoi je parle, madame.
Voilà, maître, le professeur va vous répondre, mais revenons à la préoccupation, à ma question. Pourquoi il n'y a pas d'aide humanitaire apportée aux déplacés?
Madame, vous dites, j'ai dit tout à l'heure que les canons étaient en train de crépiter. Vous voulez qu'on organise des missions humanitaires en même temps que les canons crépitent.
Les canons crépitent où précisément? Puisque donc a été récupéré sans un seul coup de feu.
Récupéré, mais avant d'être récupéré, donc il a été récupéré sous le coup de canon. Quand vous dites que ça, cela ne suppose pas que même pas le coup de canon n'a pas été entonné. C'est-à-dire, la population dans le secteur de Dongo, il y a d'abord la peur qui a gagné les âmes. Et puis la population est de l'autre côté de Brazzaville, n'est-ce pas? Il faut d'abord recréer totalement la paix, il faut prendre possession du terrain, c'est ce que la police et les éléments de FARDC sont en train de faire, et maintenant, nous avons, je venais de vous dire, que le mercredi, le gouverneur de province élu, Jean-Claude Benoît Colico, a effectué une importante mission pour évaluer la situation sur le terrain. N'est-ce pas? Mais comment pensez-vous, madame, ça prenait sur les vertus du terrain? On va imaginer, bon, en amenant 100 sacs du riz, peut-être qu'il y a plus, il y a des milliards de personnes affamées. Il faut évaluer correctement la situation sur le terrain.
Entre-temps, la population crève de faim.
Oui, madame, la population crève de faim. Je crois que j'ai réagi qu'il y a lieu d'évaluer la situation. Il y a une première mission qui a été effectuée et la plupart de la population de Dongo est à Brazzaville. Vous voulez qu'on aille les assister à Brazzaville? Nous voulons d'abord créer la paix autour du secteur de Dongo, ramener ensuite la population et même donner à manger. Ils mangeront à ce moment-là en paix.
Merci, merci maître Dismas. Professeur Ndoli, vous allez lui répondre en une minute. Quels sont les efforts fournis par le Sénat pour le retour de la paix?
Non, je ne veux pas lui répondre, sincèrement. Je crois qu'il a dit quelque chose d'important, au moins. Il dit que le conflit date de 1940, mais il sait que...
1946.
Oui, soit. Donc, il sait que depuis lors, au moins, l'autorité coloniale a pu gérer ses problèmes. Et si je parle de 2007, c'est lorsque, n'est-ce pas, des signes de réémergence de ces conflits, n'est-ce pas, ont commencé à être perçus. Donc, il faut avoir une approche apaisée et non chercher à faire des accusations gratuites. J'espère que Maître Mangungu, qui dit qu'il connaît ce qu'il dit, pourra aider l'autorité nationale à voir clair sur le fameux tireur des ficelles, parce que jusqu'à présent, lui-même disait qu'il cherchait à comprendre, mais apparemment il a déjà compris, donc il pourra nous aider. S'il voudrait plutôt revenir à l'essentiel, c'est ce qu'a dit notre ami du centre de recherche, pour dire que la problématique de la construction du vouloir vivre ensemble est un élément fondamental de la bonne gouvernance. Donc, et il faut, comme a dit un intervenant, rassurer. Il faut rassurer, éviter les chasses à l'homme pour permettre. Les gens ne sont pas simplement à Brazzaville. Les gens sont dans les territoires ils sont à Bomongo, ils sont à Kungu, ils sont à Bozené, ils sont même dans la forêt, sur tous ces axes-là. Donc il faut faire de sorte que les gens reviennent et qu'on les rassure, qu'on leur donne la sécurité et qu'on réponde aux besoins urgents, n'est-ce pas, qui sont là. Ceux qui sont du côté de Brazzaville, on parle d'un homme de 78 000. Et là, les députés de la Notre République Sœur sont venus voir les parlementaires congolais pour voir ensemble comment on va les faire. Le ministre Mbuyu a fait une première visite et il voulait, n'est-ce pas, que les gens rentrent et... Mais les gens ont posé un certain nombre de problèmes. Les concitoyens disent, voilà, commencez à nous aider ici. Parce que d'autres commencent à faire la pêche avec le concours, n'est-ce pas, des autorités congolaises qui sont déjà un peu dépassées parce que plus ou moins 100 000 personnes, c'est pas facile. Donc, il faut avoir une approche flexible qui va nous permettre d'abord de rassurer l'ensemble de nos concitoyens, les ramener à Dongo les environnants, les aider en matière médicale, en matière, n'est-ce pas, des vivres, on parle des sacs de riz, c'est très bien, et ensuite s'attaquer aux problèmes de fond. Donc, je continue à persister que la problématique de crise, n'est-ce pas, sur notre territoire est liée à la mauvaise gouvernance. Et c'est très important qu'on puisse y s'attaquer. Le Sénat n'est pas l'exécutif. Le Sénat, c'est un organe législatif chargé, n'est-ce pas, un, de faire des lois, deux, de contrôler. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les contrôles, et lorsque les contrôles, elles deviennent nerveuses.
Alors, professeur Jacques Joly, les humanitaires sont prêts à venir en aide aux déplacés, mais la situation sécuritaire n'est pas encore rassurante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter la tâche à ces personnes qui veulent bien venir en aide aux populations déplacées?
Madame, l'ensemble des techniques d'opération militaire aujourd'hui combine les opérations armées et ce qu'on appelle les opérations civilo-militaires. Et c'est dans ce cadre-là, parce qu'on ne peut pas gagner une guerre si on ne gagne pas le cœur de la population. C'est très important, les relations entre l'armée, la police et la population locale, eh bien, ces relations doivent être soigner pour redonner confiance, rassurer. Donc, je crois que la demande de notre ami de la société civile de Guémena, qui vit à Guémena, donc pas très loin du lieu d'affrontement, parce qu'il y a Bobito, il y a Tandala, il y a Bozené, sur cet ensemble des axes, eh bien, ces compatriotes membres de la société civile doivent sûrement avoir plus d'éléments que nous qui sommes à Kinshasa, ou en Bandaka dans un bureau d'avocat. Donc il est important que qu'on écoute et qu'on crée des couloirs humanitaires pour que la population de l'Équateur puisse bénéficier aussi des apports de ces ONG qui très souvent sont, n'est-ce pas, à l'Est. Nous ne voulons pas que l'Équateur perde, n'est-ce pas, ce qu'il a le plus précieux, la paix, mais puisque cette paix a été plus ou moins perturbée, nos amis des organisations internationales qui agissent à l'Est auraient mieux aussi de regarder un peu à l'Ouest, parce que nous sommes très souvent oubliés, aussi bien dans le plan de l'État que de la communauté internationale. Ben, nous ne voulons pas qu'il y ait le conflit, mais je crois qu'il faudra qu'on tourne les yeux vers la province de l'Équateur, qui bat le record de pauvreté de la nation, où on assiste, n'est-ce pas, à l'émergence de maladies qui ont disparu, où on assiste à un phénomène d'appauvrissement grave, les écoles, le route n'existe plus, nos rivières ne sont plus balisées, et la population quitte des zones aussi éloignées que Monkoto ou Bokungu pour venir à Bouende, à Mbandaka, à bord de radeaux, et c'est parfois aux yeux de la population de Mbandaka où on assiste, n'est-ce pas, à des noyades. Il faudra que nous puissions nous attaquer à ces problèmes graves de développement économique, et le développement économique va consolider la confiance dans l'autorité, et il y aura, n'est-ce pas, une plus-value en termes, n'est-ce pas, de bien-être populaire.
Merci, professeur Jacques Joly. Monsieur Arsène Mouaka, vous venez de suivre Maître Dismas, conseiller principal du gouverneur de la province de l'Équateur. Il dit que pour l'instant, c'est difficile de venir en aide aux déplacés. Quelle solution on peut préconiser pour ces gens-là?
Oui, je crois que le conseil principal, il va m'excuser, parle avec une certaine légèreté quand il parle de vie humaine et de la vie des Congolais. Et je voudrais souligner à son attention que la vie de chaque Congolais compte et ça doit être indiscutable. Je crois que quand une guerre se déroule, cela ne signifie pas absolument qu'on ne doit plus rien faire pour la population. Notre armée, qui a vraiment du travail à faire pour redorer son image, peut être mise à contribution pour pouvoir assister aussi cette population. Je crois que on a toujours vu beaucoup d'armées faire de telles choses à travers le monde. Nous n'allons pas inventer ces pratiques. De deux, je voudrais souligner à son attention que il n'y a pas longtemps, le chef de l'État fait un discours dans lequel il a dénoncé cette affaire d'expertise. poursuivre les responsabilités. La plupart des dirigeants congolais se perdent dans des études, dans des évaluations, dans des histoires. On dit d'être pragmatique et d'intervenir là où ça ne va pas. Je crois qu'il doit pouvoir dire autre chose que ce qu'il a dit. Et si peut-être c'est un lapsus, je crois que ce qui se passe dans sa gouvernance au niveau de sa province, c'est autre chose. Alors, je reviens rapidement sur ce qu'il convient de faire. Je crois que rapidement, le gouvernement congolais doit pouvoir fournir une carte des espaces sécurisés où on peut intervenir. Le professeur Joly peut-être depuis tout à l'heure, c'est des localités comme Obito, Bozélé, Sandala, à l'est de Dongo, regroupent pas mal de populations qui peuvent être assistées. Et je note que même au-delà de la frontière, l'État ne peut pas se soustraire de sa mission de protéger la population. La sécurité de cette population, c'est aussi lui apporter le minimum pour survivre, plutôt que de devenir un pêcheur d'occasion dans un pays étranger qui ne cesse pas de déployer la chronique de la mauvaise image du Congo à l'extérieur. Je crois que c'est avec responsabilité qu'il faut saisir ces besoins humanitaires et intervenir. Et il s'agit notamment de donner les minimums, mais là je crois que les humanitaires ne doivent pas aussi prétendre qu'il n'y a pas d'endroit où on peut intervenir. Je crois qu'ils doivent rapidement se mobiliser et aller vers la population. Et bien au-delà, je crois qu'il y a quand même une approche citoyenne face à ce problème. Je crois que nous devons apprendre, nous Congolais aussi, à mobiliser la solidarité nationale. Dongo doit être reconstruit et tous les autres villages qui ont été détruits. Il y a des mains qui sont disponibles, qui peuvent être déplacées jusqu'à Dongo pendant ces vacances ici, pour aider à construire les cases, et ainsi de suite. Nous devons apprendre quand même un peu de civisme et d'être prêts et témoigner de cette unité nationale dont nous parlons tant.
Merci Arsène Mouaka, maître du SMAS. En fait, il me reste 4 minutes pour mettre fin à cette émission. Je vous demanderai d'être bref dans vos réponses. Maître du SMAS, est-ce qu'aujourd'hui la population peut rentrer à Dongo?
Merci madame. Je vais d'abord faire marche en arrière parce que je suis venu chez Mouaka.
Il ne reste plus que 4 minutes. 3 minutes d'ailleurs.
C'est vraiment le regrettable, cette forme d'éducation. Où il m'a suivi, où il m'a pas bien suivi, je n'ai pas dit que la vie du Congolais ne comptait pas. N'est-ce pas? J'ai bien précisé les choses. Car l'état où la situation se trouvait, c'est-à-dire les gens se battaient, il était difficile d'entrevoir les missions humanitaires.
Merci, la participation
pour la police et les FRDC a consisté d'abord à ramener la sécurité, à ramener la paix, à créer un climat propice pour une intervention humanitaire agréable. C'est ce que j'ai dit.
Voilà, merci. Répondez maintenant à la question. Est-ce que la population peut rentrer aujourd'hui à Dongo, maître Dismas?
Non, c'est une citation du chef de l'État. Mais le chef de l'État, je crois que c'est plutôt la thèse que nous sommes en train d'épouser. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Et c'est ce que j'ai toujours avancé dans mes débats. Que ceux qui se trouvent à Kinshasa, comme M. Mouaka, pensent que la situation à Dongo se présente comme celle qu'il est en train de penser dans sa tête. Non!
Maître Dismas, je vais demander d'être bref parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Il reste 2 minutes. Vous avez pris presque tout le temps. Est-ce que la population peut rentrer aujourd'hui à Dongo?
Oui. Aujourd'hui, madame, la situation à Dongo est très calme. Et les FRDC, comme la police, est en train de demander à la population qui s'était enfuie dans diverses, disons, dans des forêts, de revenir rapidement. Et la population est en train de revenir. Dès aujourd'hui, à Mandaka, on a reçu ceux qui avaient pris des ménages, et en particulier
en Salah, on comprend que
arrivés ici à Mandaka, sont en train de regarder pendant que je vous parle.
Maître Dismas, merci. Je suis vraiment désolée, professeur Joly et maître monsieur Arsène Mouaka. Nous sommes à la fin de l'émission. Il nous reste quelques secondes seulement. Votre conclusion, 15 secondes.
Je crois que je terminerai sur l'élément de maître Mouaka qui nous a invité à la solidarité et à aux uns et aux autres beaucoup plus de responsabilités qui disent bref.
Monsieur Arsène Mouaka.
qui doivent se départir de l'idée d'un État qui sera construit miraculeusement. On ferme les yeux, on ouvre les pays et construit. Nous devons construire la paix, nous devons construire notre pays et nous devons mettre la main à la pâte.
Merci, c'est par vos propos que nous mettons fin à cette émission. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Guy Matete à la réalisation, assisté de Samuel Kachap. William Lungamba à la technique, au micro, Kéline Couté. Je vous retrouve demain, même heure, même fréquence. Bonne suite de programme.